Chapitre 10. Les deux profils de M. Bonaparte. Le curieux, c'est qu'ils veulent qu'on les respecte. Un général est vénérable, un ministre est sacré. La comtesse d'Andle, jeune femme de Bruxelles, était à Paris en mars 1852. Elle se trouvait un jour dans un salon du faubourg Saint-Honoré. M. de P. entre. Madame d'Andle veut sortir et passe devant lui. Et il se trouve qu'en songeant à autre chose, probablement, elle hausse les épaules. M. de P. s'en aperçoit. Le lendemain, Madame d'Andle est avertie que désormais, sous peine d'être expulsée de France comme un représentant du peuple, elle est à s'abstenir de toute marque d'approbation ou d'improbation quand elle voit des ministres. Sous ce gouvernement caporal, sous cette constitution consigne, tout marche militairement. Le peuple français va à l'ordre pour savoir comment il doit se lever, se coucher, s'habiller, en quelle toilette il peut aller à l'audience du tribunal ou à la soirée de M. le préfet. Défense de faire des vers médiocres. Défense de porter barbe. Le jabot et la cravate blanche sont loi de l'État. Règles, discipline, obéissance passive, les yeux baissés, silence dans les rangs. Tel est le joug sous lequel se courbe en ce moment la nation de l'initiative et de la liberté, la grande France révolutionnaire. Le réformateur ne s'arrêtera que lorsque la France aura ses casernes pour que les généraux disent « à la bonne heure » et à ses séminaires pour que les évêques disent « c'est assez ». Aimez-vous le soldat ? On en a mis partout. Le conseil municipal de Toulouse donne sa démission. Le préfet Chapuis-Mont-la-Ville remplace le maire par un colonel, le premier adjoint par un colonel et le deuxième adjoint par un colonel. Note, ces trois colonels sont messieurs Caillassou, Dubarry et Polycarpe. Fin de note. Les gens de guerre prennent le haut du pavé. Les soldats, dit Mably, croyant être à la place des citoyens qui avaient fait autrefois les consuls, les dictateurs, les censeurs et les tribuns, associèrent au gouvernement des empereurs une espèce de démocratie militaire. Avez-vous un shako sur le crâne? Faites ce qu'il vous plaira. Un jeune homme rentrant du bal passe rue Richelieu devant la porte de la bibliothèque. Le factionnaire le couche en joue et le tue. Le lendemain, les journaux disent « Le jeune homme est mort, et c'est tout. » Timour Beg accorda à ses compagnons d'armes et à leurs descendants jusqu'à la 7e génération le droit d'impunité pour quelque crime que ce fût, à moins que le délinquant n'eût commis le crime 9 fois. Le factionnaire de la rue Richelieu a encore 8 citoyens à tuer avant d'être traduit devant un conseil de guerre. Il fait bon d'être soldat, mais il ne fait pas bon d'être citoyen. En même temps, cette malheureuse armée, on la déshonore. Le 3 décembre, on décore les commissaires qui ont arrêté ses représentants et ses généraux. Il est vrai qu'elle-même a reçu 2 louis par homme. Oh, honte de tous les côtés ! L'argent aux soldats et la croix aux mouchards. Jésuitisme et caporalisme, c'est là ce régime tout entier. Tout l'expédient politique de M. Bonaparte se compose de 2 hypocrisies. Hypocrisie soldatesque tournée vers l'armée, hypocrisie catholique tournée vers le clergé. Quand ce n'est pas fracasse, c'est Basile. Quelquefois, c'est les deux ensemble. De cette façon, il parvint à ravir d'aise en même temps Montalembert qui ne croit pas à la France et Saint-Arnaud qui ne croit pas en Dieu. Le dictateur sent-il l'encens, sent-il le tabac? Cherchez. Il sent le tabac et l'encens. Ô France, quel gouvernement! Les éperons passent sous la soutane. Le coup d'État va à la messe, rosse les Pékins, lit son bréviaire, embrasse Catin, dit son chapelet, vide les pots et fait ses Pâques. Le coup d'État affirme, ce qui est douteux, que nous sommes revenus à l'époque des jacqueries. Ce qui est certain, c'est qu'il nous ramène d'ex elvolt. L'Élysée a la foi du Templier, et la soif aussi. Jouir et bien vivre, répétons-le, et manger le budget, ne rien croire, tout exploiter, compromettre à la fois deux choses saintes, l'honneur militaire et la foi religieuse, tacher l'autel avec le sang et le drapeau avec le goupillon, rendre le soldat ridicule et le prêtre un peu féroce, mêler à cette grande escroquerie politique qu'il appelle son pouvoir l'Église et la nation, les consciences catholiques et les consciences patriotes. Voilà le procédé de Bonaparte le Petit. Tous ses actes, depuis les plus énormes jusqu'aux plus puérils, depuis ce qui est hideux jusqu'à ce qui est risible, sont empreints de ce double jeu. Par exemple, les solennités nationales l'ennuient. 24 février, 4 mai. Il y a des souvenirs gênants ou dangereux qui reviennent opiniâtrement à jour fixe. Un anniversaire est un importun. Supprimons les anniversaires. Soit, ne gardons qu'une fête, la nôtre, à merveille. Mais avec une fête, une seule, comment satisfaire deux partis, le parti soldat et le parti prêtre ? Le parti soldat est voltairien, ou quand Robert sourira, Riancet fera la grimace. Comment faire ? Vous allez voir, les grands escamoteurs ne sont pas embarrassés pour si peu. Le Moniteur déclare un beau matin qu'il n'y aura plus désormais qu'une fête nationale, le 15 août. Sur ce commentaire semi-officiel, les deux masques du dictateur se mettent à parler. « Le 15 août, dit la bouche ratapoil, jour de la Saint-Napoléon. Le 15 août, dit la bouche Tartuffe, fête de la Sainte Vierge. D'un côté, le 2 décembre enfle ses joues, grossit sa voix, tire son grand sabre et s'écrie « Sacre bleu, grognard, fait-on Napoléon le Grand ?» De l'autre, il baisse les yeux, fait le signe de la croix et marmotte « Mes très chers frères, adorons le Sacré-Cœur de Marie. » Le gouvernement actuel, main baignée de sang qui trempe le doigt dans l'eau bénite. Chapitre 11, récapitulation. Mais, on nous dit, n'allez-vous pas un peu loin ? N'êtes-vous pas injuste ? Concédez-lui quelque chose ? N'a-t-il pas, dans une certaine mesure, fait du socialisme ? Et l'on remet sur le tapis le crédit foncier, les chemins de fer, l'abaissement de la rente, etc. Nous avons déjà apprécié ces mesures à leur juste valeur. Mais en admettant que ce soit là du socialisme, vous seriez simple d'en attribuer le mérite à M. Bonaparte. Ce n'est pas lui qui fait du socialisme, c'est le temps. Un homme nage contre un courant rapide. Il lutte avec des efforts inouïs. Il frappe le flot du poing, du front, de l'épaule et du genou. Vous dites, il remontera. Un moment après, vous le regardez, il a descendu. Il est beaucoup plus bas dans le fleuve qu'il n'était au point de départ. Sans le savoir et sans s'en douter, à chaque effort qu'il fait, il perd du terrain. Il s'imagine qu'il remonte, et il descend toujours. Il croit avancer, et il recule. Crédit foncier, comme vous dites, abaissement de la rente, comme vous dites. M. Bonaparte a déjà fait plusieurs de ces décrets que vous voulez bien qualifier de socialistes. Il en fera encore. M. Changarnier eût triomphé au lieu de M. Bonaparte. Qu'il en eût fait. Henri V reviendrait demain. Qu'il en ferait. L'empereur d'Autriche en fait, en Galicie, et l'empereur Nicolas, en Lituanie. En somme et après tout, qu'est-ce que cela prouve ? Que ce courant qui s'appelle révolution est plus fort que ce nageur qui s'appelle despotisme. Mais ce socialisme même de M. Bonaparte, qu'est-il ? Cela du socialisme ? Je le nie. Haine de la bourgeoisie, soit. Socialisme, non. Voyez le ministère socialiste par excellence, le ministère de l'agriculture et du commerce, il l'abolit. Que vous donne-t-il en compensation ? Le ministère de la police. L'autre ministère socialiste, c'est le ministère de l'instruction publique. Il est en danger. Un de ces matins, on le supprimera. Le point de départ du socialisme, c'est l'éducation. C'est l'enseignement gratuit et obligatoire. C'est la lumière. prendre les enfants et en faire des hommes, prendre les hommes et en faire des citoyens intelligents, honnêtes, utiles, heureux. Le progrès intellectuel d'abord, le progrès moral d'abord, le progrès matériel ensuite. Les deux premiers progrès amènent d'eux-mêmes et irrésistiblement le dernier. Que fait M. Bonaparte ? Il persécute et étouffe partout l'enseignement. Il y a un paria dans notre France d'aujourd'hui, c'est le maître d'école. Avez-vous jamais réfléchi à ce que c'est qu'un maître d'école ? À cette magistrature où se réfugiaient les tyrans d'autrefois, comme les criminels dans un temple, lieu d'asile ? Avez-vous jamais songé à ce que c'est que l'homme qui enseigne les enfants ? Vous entrez chez un charron. Il fabrique des roues et des timons. Vous dites, c'est un homme utile. Vous entrez chez un tisserand. Il fabrique de la toile. Vous dites, c'est un homme précieux. Vous entrez chez un forgeron. Il fabrique des pioches, des marteaux, des socs de charrue. Vous dites, c'est un homme nécessaire. Ces hommes, ces bons travailleurs, vous les saluez. Vous entrez chez un maître d'école, saluez plus bas. Savez-vous ce qu'il fait ? Il fabrique des esprits. Il est le charron, le tisserand, le forgeron de cette œuvre dans laquelle il aide Dieu, l'avenir. Eh bien, aujourd'hui, grâce au parti prêtre régnant, comme il ne faut pas que le maître d'école travaille à cet avenir, comme il faut que l'avenir soit fait d'ombre et d'abrutissement, et non d'intelligence et de clarté, voulez-vous savoir de quelle façon on fait fonctionner cet humble et grand magistrat, le maître d'école ? Le maître d'école sert la messe, chante au lutrin, sonne vêpres, range les chaises, renouvelle les bouquets devant le Sacré-Cœur, fourbit les chandeliers de l'autel, époussette le tabernacle, plie les chapes et les chasubles, tient en ordre et en compte le linge de la sacristie, met de l'huile dans les lampes, bat le coussin du confessionnal, balaye l'église et un peu le presbytère. Le temps qui lui reste, il peut, à la condition de ne prononcer aucun de ces trois mots du démon, patrie, république, liberté, l'employer, si bon lui semble, à faire épeler l'ABC aux petits-enfants. M. Bonaparte frappe à la fois l'enseignement en haut et en bas. En bas pour plaire aux curés, en haut pour plaire aux évêques. En même temps qu'il cherche à fermer l'école de village, il mutile le Collège de France. Il renverse d'un coup de pied les chaires de Quinet et de Michelet. Un beau matin, il déclare par décret « suspecte les lettres grecques et latines » et interdit le plus qu'il peut aux intelligences le commerce des vieux poètes et des vieux historiens d'Athènes et de Rome, flairant dans Eschyle et dans Tacite une vague odeur de démagogie. Il met d'un trait de plume les médecins, par exemple, hors l'enseignement littéraire, ce qui fait dire au docteur Serre « Nous voilà dispensés par décret de savoir lire et écrire. » Impôt nouveau, impôt somptuaire, impôt vestiaire. Nemo audeat commodere praeter duo fercula cum potagio. Note traduit du latin, nul n'oserait manger plus de deux plats avec son potage. Note ELG, fin de note. Impôt sur les vivants, impôt sur les morts, impôt sur les successions, impôt sur les voitures, impôt sur le papier. Bravo ! Hurle le parti Bedeau, moins de livres. Impôt sur les chiens, les colliers payeront. Impôt sur les sénateurs, les armoiries paieront. Voilà qui va être populaire, dit M. Bonaparte en se frottant les mains. C'est l'empereur socialiste, vocifèrent les affidés dans les faubourgs. C'est l'empereur catholique, murmurent les béats dans les sacristies. Qu'il serait heureux s'il pouvait passer ici pour Constantin et là pour Babeuf. Les mots d'ordre se répètent, l'adhésion se déclare, l'enthousiasme gagne de proche en proche. l'école militaire dessine son chiffre avec des baïonnettes et des canons de pistolet. L'abbé Gaume et le cardinal Gousset applaudissent. On couronne de fleurs son buste à la halle. Nanterre lui dédie des rosières. L'ordre social est décidément sauvé. La propriété, la famille et la religion respirent, et la police lui dresse une statue. De bronze, fi donc, c'est bon pour l'oncle. De marbre, tu es pietri, et super hanc pietram, aedificabo et figiem meam. Note. On lit dans une correspondance bonapartiste. La commission nommée par les employés de la préfecture de police a estimé que le bronze n'était pas digne de reproduire l'image du prince. C'est en marbre qu'elle sera taillée. C'est sur le marbre qu'on la superposera. L'inscription suivante sera incrustée dans le luxe et la magnificence de la pierre. Souvenir du serment de fidélité au prince président prêté par les employés de la préfecture de police le 20 mai 1852, entre les mains de M. Pietri, préfet de police. Les souscriptions entre les employés, dont il a fallu modérer le zèle, seront ainsi réparties. Chef de division, 10 francs. Chef de bureau, 6 francs. Employé à 1800 francs d'appointement, 3 francs. À 1500 francs d'appointement, 2,50 francs. Enfin, à 1200 francs d'appointement, 2 francs. On calcule que cette souscription s'élèvera à plus de 6000 francs. Note de l'auteur. Fin de note. Ce qu'il attaque, ce qu'il poursuit, ce qu'ils poursuivent tous avec lui, ce sur quoi ils s'acharnent, ce qu'ils veulent écraser, brûler, supprimer, détruire, anéantir, est-ce pauvre homme obscur qu'on appelle instituteur primaire? Est-ce carré de papier qu'on appelle un journal? Est-ce fascicule de feuillet qu'on appelle un livre? Est-ce cet engin de bois et de fer qu'on appelle une presse? Non, c'est toi, pensée, c'est toi, raison de l'homme, c'est toi, 19e siècle, c'est toi, Providence, c'est toi, Dieu. Nous qui les combattons, nous sommes les éternels ennemis de l'ordre. Nous sommes, car ils ne trouvent pas encore que ce mot soit usé, des démagogues. Dans la langue du duc d'Albe, croire à la sainteté de la conscience humaine, résister à l'inquisition, braver le bûcher pour sa foi, tirer l'épée pour sa patrie, défendre son culte, sa ville, son foyer, sa maison, sa famille, son Dieu. Cela se nommait la gueuserie. Dans la langue de Louis Bonaparte, lutter pour la liberté, pour la justice, pour le droit, combattre pour la cause du progrès, de la civilisation, de la France, de l'humanité, vouloir l'abolition de la guerre et de la peine de mort, prendre au sérieux la fraternité des hommes, croire au serment juré, s'armer pour la constitution de son pays, défendre les lois. Cela s'appelle la démagogie. On est démagogue au XIXe siècle, comme on était gueux au XVIe. Ceci étant donné que le dictionnaire de l'Académie n'existe plus, qu'il fait nuit en plein midi, qu'un chat ne s'appelle plus un chat, et que Baroche ne s'appelle plus un fripon, que la justice est une chimère, que l'histoire est un rêve, que le prince d'Orange est un gueux et le duc d'Albe un juste, que Louis Bonaparte est identique à Napoléon le Grand, que ceux qui ont violé la Constitution sont des sauveurs et que ceux qui l'ont défendue sont des brigands. En un mot, que l'honnêteté humaine est morte. Soit. Alors j'admire ce gouvernement. Il va bien. Il est modèle en son genre. Il comprime, il réprime, il opprime, il emprisonne, il exile, il mitraille, il extermine et même il gracie. Il fait de l'autorité à coups de canon et de la clémence à coups de plat de sabre. À votre aise, répète quelques braves incorrigibles de l'ex-parti de l'ordre. Indignez-vous, raillez, flétrissez, conspuez. Cela nous est égal. Vive la stabilité. Tout cet ensemble constitue après tout un gouvernement solide. Solide ! Nous nous sommes déjà expliqués sur cette solidité. Solide ! Je l'admire, cette solidité. S'il neigeait des journaux en France seulement pendant 2 jours, le matin du 3e jour, on ne saurait plus où M. Louis Bonaparte a passé. N'importe, cet homme pèse sur l'époque entière. Il défigure le 19e siècle. Il y aura peut-être dans ce siècle 2 ou 3 années sur lesquelles, à je ne sais quelle trace ignoble, on reconnaîtra que Louis Bonaparte s'est assis là. Cet homme, chose triste à dire, est maintenant la question de tous les hommes. À de certaines époques dans l'histoire, le genre humain tout entier, de tous les points de la terre, fixe les yeux sur un lieu mystérieux d'où il semble que va sortir la destinée universelle. Il y a eu des heures où le monde a regardé le Vatican. Grégoire VII, Léon X avaient là leur chair. D'autres heures où il a contemplé le Louvre. Philippe Auguste, Louis IX, François Ier, Henri IV étaient là. L'Escurial, Saint-Just, Charles Quint y songeait. Windsor, Élisabeth la Grande y régnait. Versailles, Louis XIV, entouré d'astres, y rayonnait. Le Kremlin, on y entrevoyait Pierre le Grand. Potsdam, Frédéric II s'y enfermait avec Voltaire. Aujourd'hui, baisse la tête, histoire, l'univers regarde l'Élysée. Cette espèce de porte bâtarde, gardée par de guérites peintes en coutil, à l'extrémité du faubourg Saint-Honoré. Voilà ce que contemple aujourd'hui, avec une sorte d'anxiété profonde, le regard du monde civilisé. Ah, qu'est-ce que c'est que cet endroit d'où il n'est pas sorti une idée qui ne fût un piège, pas une action qui ne fût un crime? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où habitent tous les cynismes avec toutes les hypocrisies? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où les évêques coudoient Jeanne Poisson dans l'escalier et, comme il y a 100 ans, la saluent jusqu'à terre? Où Samuel Bernard rit dans un coin avec Laubardemont? Où Escobar entre donnant le bras à Guzman d'Alfarache? Où, rumeur affreuse, dans un fourré du jardin l'on dépêche, dit-on, à coups de baïonnette, des hommes qu'on ne veut pas juger? Où l'on entend un homme dire à une femme qui intercède et qui pleure « Je vous passe vos amours, passez-moi mes haines ». Qu'est-ce que c'est que cet endroit où l'orgie de 1852 importune et déshonore le deuil de 1815, où Césarion, les bras croisés ou les mains derrière le dos, se promène sous ces mêmes arbres, dans ces mêmes allées, que hante encore le fantôme indigné de César? Cet endroit, c'est la tache de Paris. Cet endroit, c'est la souillure du siècle. Cette porte, d'où sortent toutes sortes de bruits joyeux, fanfares, musique, rires, choc des verres, cette porte, saluée le jour par les bataillons qui passent, illuminée la nuit, toute grande ouverte, avec une confiance insolente, c'est une sorte d'injure publique toujours présente. Le centre de la honte du monde est là. Ah, à quoi songe la France ? Certes, il faut réveiller cette nation, il faut lui prendre le bras, il faut la secouer, il faut lui parler, il faut parcourir les champs, entrer dans les villages, entrer dans les casernes, parler au soldat qui ne sait plus ce qu'il a fait, parler au laboureur qui a une gravure de l'empereur dans sa chaumière et qui vote tout ce qu'on veut à cause de cela. Il faut leur ôter le radieux fantôme qu'ils ont devant les yeux. Toute cette situation n'est autre chose qu'un immense et fatal quiproquo. Il faut éclaircir ce quiproquo, aller au fond, désabuser le peuple des campagnes surtout, le remuer, l'agiter, l'émouvoir, lui montrer les maisons vides, lui montrer les fosses ouvertes. lui faire toucher du doigt l'horreur de ce régime-ci. Ce peuple est bon et honnête, il comprendra. Oui, paysans, ils sont deux, le grand et le petit, l'illustre et l'infâme, Napoléon et Nabo-Léon. Résumons ce gouvernement. Qui est à l'Élysée et aux Tuileries? Le crime. Qui siège au Luxembourg? La bassesse. Qui siège au palais Bourbon? L'imbécilité. Qui siège au palais d'Orsay? La corruption. Qui siège au palais de justice? La prévarication. Et qui est dans les prisons, dans les forts, dans les cellules, dans les casemates, dans les pontons, à Lambessa, à Cayenne, dans l'exil? La loi, l'honneur, l'intelligence, la liberté, le droit. Proscrit, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez la bonne part.